Merci, merci. L'entrevue et aussi la Fondation des maisons des sciences de l'homme qui nous accueille ici. Entrevue, c'est, disons, pour nous, c'est-à-dire pour nous, les revues, la maison mère. Il n'y a pas que le salon de la revue, une fois par an, mais il y a beaucoup d'activités. Et je ne cesse de remercier les responsables. Actuellement, c'est Yannick qui est le président. Auparavant, c'était André Masson, André Chabin. Les revues, je le disais, je le dis, je le répète toujours, c'était un monde non concurrentiel. Non concurrentiel, c'est-à-dire, là, il n'y a pas de débat pour assurer sa place, parce que nous gagnons tous. Et il faut visiter le salon de la revue pour voir cet esprit dont je parle, de non concurrentiel. C'est un monde nécessaire. Chaque revue est nécessaire. Toutes les revues sont nécessaires. Et chaque création de revue, c'est pour combler la lacune. Quelque chose manque. C'est pour ça qu'une revue se crée. Pas pour se battre avec les autres. Donc, je vous suis infiniment reconnaissant de continuer cette œuvre et j'invite tous les gens qui sont ici, mais même ceux qui ne sont pas ici, de continuer à soutenir ce monde. Parce que, je le répète, ce n'est pas un monde du marché. C'est même contre, d'une certaine manière. Notre ennemi, c'est le marché. Donc, il faut nous soutenir, c'est tout. Et je vous remercie de votre présence, tous. Mais je ne parlerai, nous ne parlerons pas de l'atelier du roman aujourd'hui. La plupart parmi vous, vous le connaissez. Et ceux qui ne le connaissent pas, il y a toujours notre site. Vous pouvez le consulter. Toutes les informations sont là. Et pour ceux qui veulent nous soutenir, il y a des exemplaires à vendre. Ça, c'est essentiel. Il y a aussi une pile de bons d'abonnement pour les... ceux qui aimeraient quand même prendre, nous soutenir dans le temps. Aujourd'hui, nous allons consacrer cette discussion à autre chose, à une initiative. Une initiative que nous avons prise il y a des années pour faire des rencontres annuelles d'écrivains et qui, dans ce cadre de rencontres, nous avons inauguré l'année dernière, il y a 2 ans, un cycle Lire et relire Rabelais. Donc vous avez ici l'appel, l'argument. Il était distribué. Donc nous allons parler de ça, c'est-à-dire pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, et surtout de ces résultats. Parce que depuis 2 ans, nous avons publié 2 numéros sur ces rencontres, parce que nous publions toujours un numéro après une rencontre. Et j'ai eu l'idée de, pas de parler moi-même de cette initiative, je ne trouve pas qu'il y a de sens de parler de quelque chose qu'on est en train de faire, mais plutôt d'être jugé, c'est-à-dire de faire appel à des gens extérieurs pour penser, pour réfléchir, pour vous dire leur lecture de ces premiers de ces 2 premiers numéros qui sont consacrés à cette initiative que nous continuerons. Donc, là, c'était 2 personnes extérieures, je les présenterai un peu plus tard durant la discussion, qui ont aimablement accepté de venir justement comme 2 lecteurs extérieurs, qui ne connaissaient peut-être, ils connaissaient l'atelier du roman, mais pas vraiment. Et il y a 1/3 personne, et on va commencer par Béatrice Comanzé. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas extérieure, elle n'est pas une personne qui ne connaissait pas l'atelier du roman. Au contraire, elle est une collaboratrice et une personne qui a souvent venu à nos rencontres. Donc, à la place de vous raconter nos rencontres, pourquoi nous faisons tout ça, je pensais que c'était beaucoup plus préférable de donner la parole à quelqu'un qui a fréquenté ces rencontres depuis des années, presque toutes les rencontres. Béatrice était là toute, comme participante ou comme venue juste pour suivre le débat. Donc je dis que c'est beaucoup mieux d'avoir, même dans ce, même pour nos rencontres, un regard un peu extérieur. Donc je vous passe la parole. Elle a écrit une quinzaine de livres, et de romans aussi. Ce sont peut-être des récits, un peu de récits de voyage, mais il faut les lire pour voir que ce ne sont pas des récits de voyage. Béatrice Comanger essaye de capter un ailleurs qui n'est pas un ailleurs des cieux, mais que c'est un ailleurs qui se fait à l'intérieur de nous-mêmes, presque. Évidemment, en se déplaçant. Et elle a beaucoup traduit, entre autres en haïtien. Et donc, je te laisse la parole en rappelant ses débuts, parce que je crois que tu as commencé à peu près en traduisant en haïtien.
Commencer, je ne sais pas. Oui, la traduction, finalement, le nom, le mot. Non, bon, écoutez, voilà, moi, je me suis demandé ce que je faisais là, comme chaque fois que je dois prendre la parole. Mais on m'a convaincue, on m'a dit, tu détiens un record. Alors, le record, paraît-il, de présence aux rencontres de l'atelier. Et ce qui fait que j'ai compté les rencontres. Et ça m'a un peu affolée. Il y en a eu quand même 23. Ça a commencé en 2000, en 1999, plutôt. Et moi, je n'ai assisté qu'à 15, quand même. Mais bon, c'est un peu plus que la moyenne. Donc, je me sens un tout petit peu légitime. Mais finalement, si j'ai accepté, ce n'est pas parce que je détenais ce record, c'est que je trouvais important de parler, de répéter encore et toujours ce qui fait la singularité de l'atelier, ce qui fait ce caractère unique de ces retrouvailles entre écrivains pour méditer sur et à partir du roman. Et je vais commencer par ces qualités-là, enfin, à les définir, et puis après on parlera de l'esprit de ces rencontres. Et pour moi, ces qualités, c'est vraiment, je mettrai d'abord l'amitié, la liberté, le rire, la ténacité, la fidélité et bien sûr la résistance à tous les courants ambiants et le cosmopolitisme. Je ne sais pas si j'ai tout balayé, mais je pense que j'ai balayé l'essentiel. Donc, l'atelier avait déjà publié 20 numéros lorsque germa ce désir de se retrouver entre écrivains de tout genre et de toutes origines autour d'un thème unique pendant un temps un peu plus long, en un lieu déterminé et pour une durée déterminée, une durée assez longue pour que le dialogue prenne forme, mais pas trop longue pour éviter l'esprit de sérieux. Et en vérité, le germe, enfin, à mon avis, était déjà là parce qu'avant les rencontres, il y avait ce qu'on appelait les mardis de l'atelier et qui avait lieu au Lucernaire, une fois par mois, tous les mardis. Et c'était des soirées joyeuses, bien arrosées, où on était sûr de rencontrer des amis, où on était encore plus sûr aussi de trouver de l'inattendu. Mais la soirée se perdait en réflexion, en rire, et on remettait les pensées à plus tard. Donc, il fallait inventer une autre forme, une forme idéale de retrouvailles, et afin de créer une espèce de laboratoire. J'ai vu dans un numéro que Lakis employait ce mot, de laboratoire de réflexion spontanée. Le mot spontané a une grande importance ici. Car le but était de suivre une pensée en marche, un sujet, en entraînant un autre, sans surtout jamais vouloir conclure. Je crois que la devise de l'atelier, c'est un peu celle de Flaubert, la bêtise est de vouloir conclure. Pour définir ce caractère de l'esprit de rencontre, je rappellerai les mots de Lakis à l'ouverture de la quatrième rencontre, qui avait pour thème l'art du dialogue, justement. Et c'était, il s'agissait des réflexions sur des affinités entre le théâtre et le roman. Dans les colloques, voilà, ça je cite Lakis là, dans les colloques, les débats, les soirées littéraires, les rencontres interdisciplinaires, SIC, les tables rondes promotionnelles, les discours spécialisés, dans tout cela, ce qui se perd définitivement, inexorablement, c'est l'art du dialogue. On débat, on ne dialogue plus. dans le débat, il faut un gagnant et un perdant. Dans le dialogue, tout le monde est gagnant. Donc la décision était prise et nous étions, donc ce que je disais tout à l'heure, au tournant du millénaire, au tournant de l'Europe, au tournant de l'euro surtout, et gonflé d'illusions. Il fallait donc trouver un lieu. La Grèce offrit son ciel. Je n'ai pas encore les détails. Peut-être le pourquoi là, enfin le pourquoi oui, mais je n'ai malheureusement pas assisté à cette première rencontre qui eut lieu à Kozani. Je sais pas qui, moi je ne connaissais pas Kozani, mais je pense que le hasard ou les finances avaient bien fait des choses, parce que Kozani est une petite ville de Macédoine du Nord, entre le Mont Olympe, enfin, pas loin du Mont Olympe et du tombeau de Philippe II, et où fut créée une des plus grandes bibliothèques de Grèce au XVIIe siècle. Donc tout pouvait commencer, et pourquoi ne pas commencer par le commencement, c'est-à-dire par le mot « roman » lui-même. Le mot « roman » qui se déclinait d'une manière tout à fait différente dans toutes les langues disons, européennes et au-delà. Et c'est ainsi qu'à Kozani, dans cette ville où je ne suis jamais allée, se retrouvèrent réunis Français, Italiens, Espagnols, Islandais, Polonais et Grecs, bien sûr, pour deviser à partir de ce mot multiple, mais pour désigner un art unique, en revanche. Je vais mettre une petite incise, parce que je crois qu'il est là, parce que si j'ai dit tout à l'heure que je regrettais de ne pas être allée à Kozani, non seulement parce que c'était la première, mais j'en ai lu le compte-rendu dans le numéro, et François Taillandier disait qu'à cette rencontre, ils avaient mangé des choses interdites. Et j'espère aujourd'hui savoir ce que c'était que ces choses interdites.
Ça continue.
D'accord. Très bien. On saura tout à l'heure. Et donc, la Grèce allait finalement, après Kozani, Kozani fut la seule à Kozani, mais la Grèce allait abriter 14 rencontres. Il y en aurait deux à Thessalonique, une sur la mondialisation, c'est-à-dire ces rapports entre... qui évolue entre l'histoire et la géographie dans le roman. Et la deuxième sur Papa Diamantis, cet écrivain, ce premier romancier grec, celui qui a créé le roman en Grèce au XIXe siècle. En fait, la Grèce était tout à fait à part dans la naissance du roman. Et là, qui se tient beaucoup à ce qu'on connaisse cet auteur méconnu. Il a raison. Et la quatrième à Volos, dont j'ai un peu parlé, sur le théâtre et sur le roman. Mais ensuite, j'ai l'impression que les rencontres ont trouvé leur lieu, le lieu qui correspondait, qui réunissait tout l'esprit que l'on pouvait développer. Et ce lieu, c'était Nauplie, Nauplio. Et ça nous donna assez de temps pour nous permettre vraiment de nous imprégner de ce lieu inépuisable. Car Nauplie, c'est vraiment un concentré de Grèce ancienne entre Argos, Mycène, Épidaure. En allant au-delà dans l'histoire, une forteresse ottomane, un château vénitien, enfin, il y a tout ce dont on peut rêver. Et surtout, cette ancienne mosquée byzantine qui abrita le premier parlement grec. Et c'est là qu'eurent lieu nos premières rencontres à Nauplie. Pour en définir l'esprit, là, j'ai relevé quelques définitions de Lakis. Il dit une rencontre ateliéresque est un banquet de deux jours et trois nuits. Et Nauplie, c'est carrément de la médecine préventive. de bons repas, boire, fumer et des vives discussions. Voilà. Donc, et ces rencontres, donc, elles se définissaient comment ? Il n'y avait jamais plus de 12 participants, 3 demi-journées d'intervention. Et donc, ainsi, pendant 9 ans, en ce lieu magique, nous allions parler. Par exemple, en 2004, nous révolter contre l'industrie culturelle. En 2005, réitérer notre besoin du rire. En 2006, réfléchir sur les affinités électives, sur les affinités pas électives entre essai et roman, électives finalement. Et en 2007, rassembler des écrivains autour de la francophonie, et au cours de cette rencontre, il n'y avait pas un seul écrivain français de nationalité pour parler, cette fois-ci, précisément de la langue. 2008, on a parlé du beau, ça fait jamais de mal, du beau dans la poésie et le roman. Y a-t-il une différence d'angle ? Et 2009, c'était la philosophie et le roman, un peu comme essai et roman. Et en 2010, là, c'est le sujet un peu crucial, nous demander s'il y a un monde en dehors de l'image. 2011, je n'étais pas là, c'était autour du livre de Kazantzakis, La dernière tentation du Christ. Et 2012, qui fut la dernière, pour parler de la guerre entre le temps et l'actualité. Et pour finir, pour ce lieu, je voudrais vraiment évoquer la première fois que je suis arrivée à Nopli. Je crois que c'est une image que je n'oublierai jamais. Je ne sais pas pourquoi, j'étais arrivée après les autres et je suis arrivée en pleine nuit à 9h. Et on m'attendait sur la place de Nopli, qui est une très grande place, vraiment avec des proportions un peu idéales, et avec un platane sous lequel était dressée la table avec les douze apôtres. Et vraiment, je ne sais pas, j'ai eu cette sensation qu'on a rarement, d'avoir absolument pas envie d'être ailleurs, quoi. C'était vraiment comme un moment magique. Avec les enfants, c'est ça aussi qui est très frappant sur cette place. Il y a du silence et les enfants qui jouent au ballon. Voilà. Et donc, mais 2012, ça marque un tournant. Ça marque un tournant à cause de ce que t'es en train de devenir l'Europe. C'est-à-dire vraiment la perte de l'illusion, de la croyance en une Europe réelle, où il n'y aurait pas d'un côté la culture et de l'autre la vie des hommes. Et d'un côté, des festivals littéraires, et de l'autre, les diktats du FMI, comme si tout ça pouvait marcher ensemble sans finir dans de cruels, je ne sais plus comment dire, Romain Gary, une Europe schizophrène. Il parle d'une Europe schizophrène qui finira dans le meurtre. Enfin, en gros, je ne sais plus, j'ai pas pris Il disait déjà ça en 1972. Alors, mais quitter cette illusion n'était pas abandonner l'idée de ces rencontres et il fallait au contraire persister dans la méditation le temps d'un week-end, persister sur cette pensée de la perte d'humanité qui était en train de se faire en l'homme. Et l'atelier, et là je trouve que finalement, je crois, entre Nopli, tous ces lieux dont je viens de parler, il me semble que l'atelier est né quand même sous une bonne étoile, parce que, et cette étoile, je crois que c'est celle de Rabelais, justement, parce que je ne sais pas par quel miracle, c'est l'abbaye de Seuilly qui à ce moment-là, donc en 2012, a ouvert sa porte, et l'abbaye de Seuilly se trouve à 800 mètres de la Devinière, donc du lieu où est né Rabelais. Et on pouvait imaginer, les rencontres se passaient dans une grande salle assez imposante, et où on pouvait imaginer que peut-être l'enfant Rabelais avait été à l'école. Enfin, en tout cas, on était déjà dans Rabelais. Et à ce moment-là, le mot d'ordre, déjà, on les appelait les rencontres de Thélème, mais le mot d'ordre, c'était la liberté. Et sur ce vocable inépuisable, il y eut 9 variations. 9 variations sur quelles règles pour la liberté. La liberté doit-elle d'être impertinente? L'identité et surtout l'identitarisme menace-t-elle la liberté? Le désir d'ailleurs est-il un désir de liberté? Ces rencontres se sont achevées sur le visage, quel visage à la liberté. J'en arrive à la dernière rencontre qui est le visage de la liberté. Et lorsque Lakis nous annonça qu'on s'arrêtait et qu'on allait revenir à l'origine, à Rabelais, et j'ai remarqué en relisant un peu les numéros qu'en 2008, déjà à Nopli, lors de la rencontre justement sur la guerre du temps et de l'actualité, Lakis avait lâché cette petite phrase : on ne revient pas à Rabelais, c'est Rabelais qui vient à nous. Et je voudrais terminer ce petit résumé par une phrase que j'ai relevée dans un des numéros, une phrase de Vico de Gombrowicz, qui, en 1966, se demandait comment faire pour que l'art cesse d'être l'expression de notre médiocrité. Et il concluait que le meilleur moyen, c'était de se tourner vers les grands personnages, les grandes figures du passé, et, en alliance avec elles, retrouver dans nos propres personnes les sources éternelles de l'envolée, de l'inspiration, de l'enthousiasme et du charme. Voilà. Et la grande figure, c'est Rabelais. Et je passe la parole
au suivant.
Merci beaucoup, Béatrice. C'était. Je n'ai jamais pensé que c'était si agréable à y être. Oui. Non, c'était vraiment des moments uniques, je pense, oui. Mais que ça continue. Voilà. Donc maintenant, je vais justement passer à le test. Donc ça, c'est le test commence maintenant. C'est-à-dire parce qu'il y a deux personnes qui vont nous parler un peu de leur réaction, de leur lecture, de cette. Et nous commençons par un, disons, spécialiste de Rabelais, mais il est maître de conférences. Romain Ménigny, et plus que ça, il est chercheur. Son domaine, c'est un peu le XVIe siècle, mais il déborde le XVIe siècle, c'est le Moyen-Âge, Rabelais, surtout Rabelais, et il est le responsable d'une nouvelle translation de Rabelais, mais cette fois, par rapport aux précédentes, c'est que ça s'appelle comme ça, tout Rabelais, c'est-à-dire tout Rabelais. On a souvent des almanachs, tout ça, on l'a, mais en latin. Maintenant, tout est traduit et c'est Robert Laffont, c'est bouquin. Et quel est le rôle de Molach, la librairie Molach,
Elle a coédité.
Coédité.
Comme certains numéros bouquins.
Donc, c'est une erreur, il faut dire coédité par. Oui. Quand je dis. Rencontre d'écrivains, peut-être ça laisse entendre que les spécialistes sont dehors, que ça ne nous intéresse pas. Mais vraiment, des spécialistes, c'est-à-dire des gens qui passent leur temps à fouiller pas seulement le texte, mais tout le contexte. Moi, je dirais que non, c'est le contraire. Déjà, nous avons commencé, l'année dernière, il y avait une personne, une spécialiste de Rabelais, qui était avec nous. Et c'est le contraire, c'est-à-dire il faut que ça communique pour ne pas aboutir à deux chambres à part, pour dire que nous avons des choses à dire les uns aux autres. Mais surtout, voir un peu notre situation d'écrivain. Est-ce que nous avons ce contact nécessaire avec Rabelais pour renouveler notre pensée, nos rapports au monde? C'est notre question, c'est la seule question que nous posons. Et à cette question, tout le monde doit répondre, écrivain et spécialiste. Donc, Romain, je vous passe la parole.
Merci beaucoup, Lakis. Vous m'entendez? Bon, alors, vous l'avez compris, j'espère que je ne serai pas l'universitaire de service. Je suis le premier à déplorer qu'en France notamment, par rapport, par exemple, à l'Amérique, les deux mondes soient relativement hermétiques. Les écrivains sont méfiants à l'endroit des universitaires. Les universitaires ont tendance à être méfiants à l'endroit des écrivains. Je trouve ça très dommageable. Et je suis absolument ravi de voir que Rabelais est vivant. Et vous en avez donné la preuve. Les deux numéros en ont donné la preuve. Donc, je vais peut-être porter un regard de... Évidemment, je ne pose pas les mêmes questions au texte de Rabelais. Mon but, c'est plutôt, alors même si j'ai étudié l'histoire de la réception, parce que y a eu des creux, mais finalement, on a toujours lu Rabelais depuis le XVIe siècle, et chaque époque se révèle aussi dans la manière dont elle reçoit Rabelais. Est-ce qu'on peut dire qu'on lit Rabelais? Est-ce qu'on peut ne pas le dire? Est-ce qu'on est dans des époques de puritanisme? Est-ce qu'on le réédite? Comment on le réédite? Est-ce qu'on veut le lire dans le texte ancien? Est-ce qu'on se met déjà à le moderniser? Parce que les entreprises de modernisation sont très précoces dans l'histoire. Donc, ce qui frappe, c'est que, en tout cas, moi, ce qui me frappe quand j'ai lu ces deux numéros, c'est qu'il y a une forme de consensus. Pour vous aussi, ou pour les écrivains qui ont participé à ces numéros, Rabelais, de fait, comme le dit Céline, a raté son coup. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs écrivains dans les numéros qui disent on aurait pu avoir une grande tradition française qui soit fidèle à Rabelais. Finalement, Rabelais n'a pas fait école. Et j'ai l'impression que plusieurs le déplorent. C'est-à-dire que même des gens qui sont en poste dans l'édition actuelle et qui pourraient faire changer les choses, j'ai l'impression qu'il y a une forme de consensus dans la déploration. Une forme de déploration qui dirait que la littérature actuelle est peut-être trop triste, que le rire de Rabelais n'y est pas, que la grande créativité verbale n'y est pas. Et donc ça me frappe parce que moi, c'est un sentiment que j'ai en tant qu'amateur quand je fréquente les librairies. De fait, souvent, en venant de Rabelais, je suis assez frappé par le fait qu'on révère nos grands écrivains, mais il y en a peu pour faire des actes qui soient des actes de courage linguistique semblables à ce qu'avait fait Rabelais, c'est-à-dire rêver d'une grande langue, d'une langue qui soit capable de tout, qui prenne à toutes les parlures, qui ne se satisfasse pas d'un français médian, qui soit d'ailleurs télévisuel ou celui de la radio ou celui du journalisme, etc. Donc ça, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une appétence et ça, moi, ça me rassure parce que parfois, j'ai l'impression d'être... Quand je sors de mon XVIe siècle, j'y passe tout mon temps, d'une certaine manière, à éditer le texte, à commenter le texte, à essayer de voir, à essayer de lever les dernières énigmes qu'on a chez Rabelais. Voilà, ce qui me frappe, c'est qu'il y a une appétence. Cette appétence, j'ai l'impression qu'elle prend la forme du roman. C'est l'idée que Rabelais serait le premier romancier. Et ça, c'est très frappant pour moi, parce qu'évidemment, vu depuis le XVIe siècle, si j'ose dire, vous le savez, Rabelais n'aurait jamais appelé ses livres romans. Ça veut dire que le fait de voir en Rabelais un romancier, et c'est très important, avec des caractéristiques qui sont la naissance d'un personnage fort comme Panurge qui va caractériser le roman moderne, ça, c'est vraiment un effet de réception. Ça veut dire que notre époque, ou certains écrivains de notre époque, ont besoin de voir en Rabelais une incarnation précoce du romanesque. Et ça, c'est... Disons qu'en historien, Rabelais a utilisé des termes pour parler de ses livres. Il les a appelés livres. Ou alors, pour les deux premiers, chroniques. Ou alors, pour le quart livre, mythologie pantagruélique. Avec, dans la brève déclaration qui accompagne le quart livre, cette glose de mythologie qui dit fabuleuse narration, c'est-à-dire faisant référence à ce que voilà, certains écrivains antiques comme Macrobe appellent narration fabuleuse, c'est-à-dire quelque chose qui serait à mi-chemin entre la fable et l'histoire, des fables, mais qui ne dirait pas n'importe quoi, qui serait susceptible d'une interprétation à plus haut sens, allégorique, etc. Et donc ce qui est très frappant pour moi, c'est que j'ai l'impression que le Rabelais allégorique, ou qui rénove l'allégorie, qui était très 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 important au XVIe siècle, toute la première réception va chercher les énigmes. Des énigmes historiques, des énigmes érudites. Mais, ça, c'est pas forcément ce qui est nécessaire aujourd'hui. Ce qui est nécessaire, c'est la grande incarnation du roman. Et elle a un vrai fondement. Disons que Kundera l'a imposé au XXe siècle. Mais même à l'agrégation, il y a quelques années, on a mis au programme un programme qui s'appelait « La naissance du roman moderne », dans lequel il y avait Rabelais. C'était quand même tout un programme, Rabelais, Cervantes et Stern. Donc au moins notre Occident a envie de reconnaître Rabelais. Et ça, je pense que c'est très instructif. C'est très instructif parce que ça veut dire que peut-être on laisse aussi d'autres côtés d'un Rabelais qui était celui de la première réception. Voilà, le Rabelais de l'érudition. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile à donner. Moi, je le vois avec mes étudiantes. Le Rabelais érudit est très difficile à expliquer. Ce qui explique pourquoi, dans le corpus de Rabelais, on va lire de préférence les deux premiers livres. Alors que si vous me demandez quel est le chef-d'œuvre de Rabelais ou quels sont les deux chefs-d'œuvre, je vais vous dire que c'est le tiret et le quart. Sauf que le tiret et le quart nécessite un engagement avec l'érudition qui est sans commune mesure avec les deux premiers livres, qui sont aussi des livres érudits, mais qui se coule dans un moule qu'on a coutume d'appeler médiéval, qui n'est pas médiéval en réalité, mais qui est voilà, des aventures qui peuvent s'apparenter à des parodies de chevalerie, de romans de chevalerie, etc. Ça aussi, si on regarde l'histoire de Rabelais, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel moment dans l'histoire de France, disons, les belles lettres se sont coupées de l'érudition. Et je pense que c'est le moment, disons, des siècles classiques qui inventent, ce dont on est encore tributaire, pour le meilleur et pour le pire, ce qu'on pourrait appeler le bellettrisme. C'est l'idée que les belles lettres vont non plus avoir directement avec la philologie, avec des efforts d'acquisition de connaissances. Et ça, c'est un Rabelais auquel moi je tiens beaucoup. Cette langue qui est capable de dire tous les savoirs du monde. Et ça, j'ai l'impression que notre époque en veut moins que le Rabelais romanesque. Alors, donc, c'est une réflexion que je vous soumets. Hein. Pourquoi ? Peut-être aussi pour la question de la langue. Donc, je ne vais pas répéter ce que j'ai écrit dans ma préface, puisque quand il me fallait pour tout Rabelais écrire... voilà, tout ce que je pensais de Rabelais en 20 pages, il fallait choisir. Moi, j'ai écrit des milliers de pages sur Rabelais. Donc au moment de faire la préface de l'édition, il fallait, donc, voilà, je devais choisir un angle. Et c'est certainement l'angle qu'on partage avec Philippe, que j'ai d'ailleurs rencontré à un colloque Rabelais en Sorbonne. Les pouvoirs de la langue. Et ça, c'est vrai que dans la revue, on l'entend. C'est-à-dire que cette langue, une langue qui soit capable de tout, qui soit créative, qui soit joyeuse, j'ai l'impression que dans le paysage actuel, ça n'est pas forcément la trame majoritaire. J'espère que Rabelais fera des petits. Est-ce que les grands écrivains font des petits? Peut-être que non. Peut-être qu'ils enterrent tout de suite leur modèle parce qu'ils sont trop grands d'une certaine façon. Est-ce que imiter Rabelais, c'est se complaire dans le pastiche? C'est pas souhaitable non plus, le pastiche. Avec Philippe, auquel je vais donner la parole, j'ai l'impression qu'on peut quand même rêver à un Français qui soit un Français riche, un Français qui n'ait pas peur des miroirs, qui n'ait pas peur de l'obscurité. Ça, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que... Et ça a été dit dans la revue, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a deux contributeurs qui disent ou bien Rabelais, au début, ne me faisait pas rire, ce qui est très intéressant, d'une certaine façon, parce que le rire, on imagine que c'est un universel, mais les mêmes choses ne faisaient pas rire au XVIe siècle et aujourd'hui. L'épisode des paroles gelées, on sait par Castiglione qu'à la cour, ça suscitait des fous rires. Bon, aujourd'hui, quand on lit les paroles gelées, alors peut-être que ça vous fait rire aux éclats, on a du mal à penser que toute la cour était littéralement pliée de rire avec les... Bon, ça veut dire que le rire aussi est susceptible d'une acception historique. Mais voilà, cette langue qui peut être obscure, qui crée des énigmes, qui est labyrinthique, qui est riche jusqu'à l'excès, est-ce qu'elle reviendra en faveur en France? J'aimerais. Il est très clair que le poids d'un certain classicisme, passé à la moulinette certainement du roman réaliste du 19e, et puis à la loi du marché, fait qu'on a certainement quelque chose qui est moins rabelaisien que ce qu'on... Mais ça, c'était déjà d'une certaine manière le cas à l'époque classique. Voltaire, avant de découvrir les Anglais qui lui disent « Mais Rabelais, c'est vraiment bien, hein, Swift et compagnie », a dit beaucoup de mal de Rabelais. Donc voilà. Est-ce qu'on, il y a quand même un choix. Même le rire tel qu'il est pratiqué aujourd'hui en France est plutôt voltairien que rabelaisien. Donc bon, j'espère que c'est. Je veux pas avoir l'air de déplorer. Voilà. En tout cas, moi, je suis vraiment heureux de voir qu'il y a que Rabelais peut servir de figure tutélaire. C'est une figure qui ne réduit rien. C'est une figure qui est infiniment inclusive, comme on dirait aujourd'hui, en tout cas dans un tout sens. C'est d'une langue qui tout reste à faire. Voilà, c'est ça qui peut-être, pour terminer sur une bonne note, je dirais ça à Lakis. Merci encore.
Merci Romain. D'abord, je vous annonce la bonne nouvelle pour ceux qui auront le courage ou les moyens de venir à Chinon l'année prochaine, le mois d'octobre. Et les deux sont invités, et Romain et Philippe, pour participer. Donc, on aura l'occasion d'en parler. Il faut nous parler des choses qui, évidemment, manquent. Mais juste un rappel. Nous participons à ces rencontres juste avec, comme connaissance, cet appel. Il n'y a pas d'autres restrictions. Après, c'est libre d'intervenir et d'aller vers n'importe quelle direction. Donc, il y aura certainement après une discussion, mais maintenant, je dois passer la parole à Philippe. Philippe est peut-être au départ photographe, je ne suis pas au courant exactement, peut-être, mais il écrit des essais aussi. Des réflexions et déjà 4 romans. Moi, je n'ai lu que le 4e, le dernier, qui vient de paraître depuis un an à peu près. C'était l'automne qui a paru le célibataire absolu. Si. Oui. Donc, moi, je l'ai lu. Oui, c'est un roman. C'est un roman d'après l'annonce. Mais c'est un roman qui m'intrigue. Je dis là, je recommence maintenant de remettre en cause tout ce que je pensais du roman. Donc voilà, c'est très très bien. Je l'ai lu dans 3 jours. Et il m'a dit qu'il y a des personnes qui n'ont pas... C'est 4 ou 5 jours le maximum. Moi, je suis arrivé à 3 jours. Donc c'était captivant. Ça fait 400 pages, grand format, avec des photos à l'intérieur. Moi, je dirais, pour l'instant, comme c'est un roman initiatique, et pour l'auteur, et pour le lecteur, parce qu'il parle d'un écrivain italien, Emilio Gadda. Moi, je ne connaissais pas. Et je commence à l'aimer sans le connaître, sans avoir rien lu. Et je suis plutôt réfractaire à des pirouettes avec la langue. Je suis plutôt vers le classique. Mais l'art impose ses normes. Donc... je suis complètement intrigué. Je continuerai à... Je lirai Gadda. Et même Philippe m'a suggéré l'idée de faire un numéro Gadda. Et j'ai dit, OK, on le fera. Voilà. Donc, je vous passe la parole.
Bon, ben merci, Lakis, de projeter ce numéro sur Gadda. Alors, pourquoi... c'est bien de parler de Gadda tout de suite. Personne ne connaît vraiment Gadda. C'est sans doute le plus grand écrivain italien du XXe siècle. C'est l'équivalent de Joyce et Proust et de tous les monstres dans chaque pays. Donc c'est le plus grand maître de la langue italienne. Pas la peine de penser que le plus grand écrivain italien, c'est Moravia ou Pasolini. Même Pasolini a dit que le plus grand, c'était Gadda. Pourquoi c'est important de parler un petit peu de Gadda ce soir? C'est que c'est sans doute en équivalence une sorte de Rabelais italien. Et pourquoi? Parce qu'il a fait lui, comme l'a dit Romain, on attendrait qu'en France, quelqu'un fasse ce que Rabelais a fait, ce que Céline n'a pas réussi à faire, parce que Céline dit que Rabelais a raté son coup, mais la façon dont Rabelais pourrait juger Céline aussi a raté son coup, vu qu'il n'a pas intégré au parler populaire et du bas peuple la qualité érudite qu'avait Rabelais. Et Gadda est très important, c'est que lui, il a réussi en Italie à faire ce qui n'a pas été fait en France, c'est-à-dire à faire une synthèse extraordinaire des dialectes qui sont encore vivants dans les provinces italiennes, des langues érudites, des langues techniques, et avec un fond culturel énorme. Pourquoi j'ai fait un livre sur Gadda qui m'a intéressé pendant 40 ans de ma vie? C'est que quand j'avais 20-25 ans, j'étais en quête, comme dit Romain, d'une langue française extrêmement vivante, sur le modèle de Rabelais, sans doute. Et je ne trouvais pas à faire mon marché, mes commissions dans mon propre pays. Donc, bah, le miracle, c'est que j'ai trouvé ça en Italie. Et il a fallu faire le détour par quelqu'un qui avait justement réussi à marier toutes les langues, comme c'était encore le cas à l'époque de Rabelais. Pour moi, en tant que Français et amoureux de la langue française, tenter assez tardivement de faire mon petit travail en essayant de garder, alors, de garder la synthèse des parlers. Alors, ça ne se fait pas, cette synthèse des parlers, dans mon cas, de façon abstraite ou théorique. Ça se fait suivant souvent les données biographiques. Moi, je suis né... j'ai été élevé à la campagne en Corrèze où mes grands-parents étaient métayers, ils parlaient le patois, donc j'ai entendu cette langue toute mon enfance. Et après, j'étais propulsé au nord de Paris, dans les villes nouvelles, à Sarcelles, où il y avait le français standard à l'école, mais on ne parlait pas le français. Nous, on parlait une langue qui était une agrégation de toutes les sous-langues, de toutes les sous-populations, de tous les pays de la décolonisation, donc c'était des pays arabes, africains, tous mélangés, les populations juives aussi de Tunisie. Et donc j'avais ce langage-là, plus la langue. Alors la langue de l'école était déjà en avance sur la sous-langue d'aujourd'hui, puisque dans les cités, on nous servait vraiment une langue française complètement basique. J'ai rien contre eux, mais c'était que Prévert et Saint-Exupéry. Si je vois Saint-Exupéry, je l'assassine, j'ai envie, c'est clair. Non, j'ai souffert de ça. Et d'un seul coup, bon, moi, j'ai, par hasard, on m'envoie dans les classes préparatoires. Et là, les profs me disent, bon, bah, Bordas, tu parles ta langue de la rue, c'est absolument immonde. Si tu vas là-bas, que tu fais bien tout ce qu'on te dit, on me l'avait promis comme ça, tu vas apprendre une langue française extraordinaire. Donc moi, j'étais un peu le paysan idiot. Je pars en classe prépa et j'attendais qu'on me serve la langue extraordinaire qu'on m'avait vendue. Et sauf que bah, à cette époque-là, bon, c'était dans les années 79-81, dans les classes prépa en cagne, hypocagne, c'était que la vulgate des sous-sciences humaines, et c'était Blanchot et trucs comme ça, et puis le post-structuralisme. Donc moi, je ne trouvais pas la langue que je cherchais, donc je suis parti de ces classes-là, je me suis prolétarisé, et j'ai commencé mon éducation littéraire tout seul. Et dans les recherches autodidactes que fait un gars qui reprend tout à zéro, je suis tombé sur Gadda par hasard, dans une librairie. Et je vois d'un seul coup un gars qui fait ce que moi je n'arrivais pas à faire, parce que je me disais, je ne vais pas quand même pas écrire un livre en patois, parce que je parle le patois de ma grand-mère, je ne vais pas écrire dans la langue des cités, je ne veux pas écrire le français dégueulasse de l'école, parce que c'est déjà dans les livres, enfin dans les livres scolaires. Et puis la langue dite parfaite en hypocagne, on m'annonçait comme un chef-d'œuvre les mots de Sartre. Je trouvais ça très bien, mais c'est complètement mort. Moi, j'avais vécu que des langues vivantes. Vous lisez les mots de Sartre quand vous venez de la cité, on pense que le mec est très malade et qu'il n'arrive pas à articuler la langue telle qu'elle se parle. Non, mais, donc, je ne savais pas quelle langue parler. Et quand j'ai lu Gadda, je me suis dit, mais ne fais pas de choix. Et en fait, j'ai vu que cet auteur-là mélangeait les dialectes de Venise, de Milan, de Rome, plus les grandes références culturelles de Ovide, Tacite, César et Dante et l'Arioste. Et puis tout ça faisait une synthèse quasiment gastronomique. Et je me suis dit, et là, j'ai découvert Rabelais un peu après. Et donc, d'une certaine façon, j'ai toujours adoré Céline, mais Rabelais est arrivé après par le biais de la découverte d'un grand écrivain extérieur. Donc, par rapport à ce qu'a dit Romain, l'énorme nouvelle, c'est que Gadda est mort en 1973, mais que quelqu'un existait qui n'avait pas baissé pavillon. Et donc, moi, j'ai fait tous ces voyages que je raconte dans un livre qui est effectivement initiatique. C'est comment je suis devenu lecteur, parce que je ne comprenais rien à Gadda, c'était très sophistiqué, j'ai mis 40 ans à comprendre. Et comment je suis devenu lentement, producteur de textes. Et donc, finalement, je reviens en France et j'avais tout ce rêve de Gadda qui était celui de Rabelais. Mais j'arrive dans le monde de l'édition et il faut lutter d'un seul coup avec quelque chose. J'ai commencé tard, j'ai publié après 40 ans, et je vois que dans le monde de l'édition, il y a deux langues qui ont été complètement éliminées, par quand même, il faut le dire la vérité, c'est la bourgeoisie qui est au pouvoir depuis la Révolution française, c'est la bourgeoisie qui tient le monde de l'édition et de tous les journaux. Donc quand on arrive pour écrire, on se retrouve dans un contexte social où la langue régnante et la langue médiane, qui est plus ou moins celle du commerce, parce que quand on vous dit aujourd'hui que la langue est faible, elle est faible pourquoi ? Parce qu'elle est communicante, elle est à la langue du commerce, de l'échange, de la communication, de la marchandise. Et d'un seul coup, je m'aperçois que les deux langues que je préfère, qui sont les langues très basses de Villon à Céline et les langues très hautes, sont ségrégées. Et il y a quand même tout un travail de linguistique historique à faire. La France est quand même le pays de toute l'Europe qui a, depuis la Révolution, mené une chasse à courre invraisemblable contre la langue du peuple, avec une répression politique en France qui n'a été atteinte dans aucun autre pays. Quand on voit 1830, 48, 1871, comment peu à peu est renier toute la possibilité d'expression populaire et éliminée dans les livres et à l'école. Et d'un autre côté, on voit aussi aujourd'hui justement une ségrégation de la très haute littérature. Ce n'est pas juste Sarkozy qui dit celle-ci est illisible, on s'en fout. Mais quand même, il y a aujourd'hui, ce n'est pas juste l'érudition. C'est la langue vivante, la langue riche, la langue drôle, est complètement mise de côté. Et ça, c'est quelque chose qui existe beaucoup moins en Italie, parce que les gens, il n'y a pas eu la mise à mort des patois qu'on a vécu nous. Donc les gens savent ce que c'est que d'être bilingue, voire trilingue, parce qu'ils voyagent un petit peu. Puis l'Italie, elle est vite collée aux pays limitrophes. Donc la grande question par rapport à Rabelais, Romain voit un fatalisme dans la revue, parce que certains disent « oui, c'est bien, mais on ne peut plus le refaire ». Mais moi, je suis écrivain vivant et j'ai envie que vivent tous les langages. Et je n'ai pas envie, parce que j'ai pu faire des études supérieures, que la langue des cités, qui était la langue vivante qu'on avait nous, soit morte. Donc, dans les bouquins, parfois, je ne remets pas la langue des cités, par exemple, de façon naturaliste, comme dans un rap, parce que ça n'a pas de sens, que ce soit du verlan ou des mots d'argot. Je fais des greffons avec des vieux dictionnaires de français où je m'aperçois qu'il y a un mot qu'on utilisait à la cité qui a une petite racine que je retrouve dans le Godefroy, le vieux dictionnaire. Et là, je fais un mot qui sonne totalement français, mais qui est un mot avec une syllabe qui vient de l'arabe ou des mots qu'on mettait à la cité. Donc là, qu'est-ce que je fais quand je fais ça? J'essaye de non pas de faire l'atelier du roman, mais de faire l'atelier du français. C'est-à-dire que, avant de parler du roman, il faut déjà qu'on ait en main une langue qui soit vivante et utile. Et donc la question aujourd'hui, c'est que tout le monde veut écrire des romans, mais sans langue. Donc c'est un miracle technologique que l'édition autorise et favorise, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des écrivains dans la salle, quand vous arrivez avec un texte, qui est un texte trop populaire ou trop érudit, le commerce vous dit non. Donc, les deux pôles rabelaisiens les plus extraordinaires, c'est pas qu'on ne les a pas non plus dans l'inspiration ni dans le savoir-faire. Ils nous sont interdits par le marché de l'édition, qui est une structure extrêmement répressive, et qui demande une simplicité. Et aujourd'hui, on atteint un degré de simplicité absolument extravagant. Si, par exemple, vous faites une scène où vous traversez la forêt, malheur à vous si vous vous amusez à donner le vrai nom des arbres. Alors, j'ai traversé une forêt, des branches ont craqué sous mon pied. Ah ouais, alors, c'est la forêt générique des dessins animés, quoi. Voilà, donc pour résumer, j'essaye de faire quelque chose qui est très simple. C'est, voilà, il y a un truc drôle que je veux dire. C'est que finalement, quand moi j'ai commencé à faire ces études, les profs me disaient « bon, ben, toi tu ne parles pas français ». J'écrivais très bien français, je ne parlais pas français. Et donc je me suis caché un peu par honte pour beaucoup lire et essayer de m'améliorer. Et quand je suis arrivé pour proposer mon premier manuscrit, j'avais plus de 40 ans, là, on m'a dit « non, mais là, cette langue-là n'existe plus ». Donc, j'ai été coupable par le bas et par le haut, c'est-à-dire que j'ai été réfuté deux fois, par haut et par bas. Non, mais c'est un truc dingue dans une existence. Et on aurait dû me dire « reste nul », parce que si j'étais resté aussi nul que j'étais en 1980, j'aurais les honneurs de l'édition aujourd'hui, vous voyez ce que je veux dire? J'aurais peut-être bien mieux vendu, parce que je vends que dalle avec mon système. Vu que je veux agréger la langue du bas, mes copains de la cité, ils ne comprennent rien. Et les académiciens, ils me disent « on te lira plus tard ». Donc c'est un truc très très compliqué et on n'a pas forcément, il faut avoir le courage d'écrire son absolu, sa drôlerie, sans attendre beaucoup de choses. Et comme on en a parlé avec Romain tout à l'heure, Romain me dit, ça se trouve, aujourd'hui, il y a 3000 vrais lecteurs de Rabelais en France qui maîtrisent la langue de Rabelais, et c'est peut-être le même nombre qui, au XVIe siècle, avait effectivement lu Rabelais. Voilà ce bilan totalement joyeux et désastreux. Merci.
'Donc maintenant, nous sommes tous ensemble, mais quand même, nous pouvons continuer à discuter. Et, ben, j'ai juste pour Romain une petite réflexion. Il faut qu'on termine un jour avec cette Rabelais a raté son coup. Parce que c'est, il n'a pas raté. Donc, il ne faut pas le répéter parce qu'il est traduit dans toutes les langues du monde. Et tous les grands écrivains, je ne sais pas, de Kundera, Kenjamburoé, de Gombrowicz à Chamoyo. Donc, ces réclames de Rabelais, ils sont du XXe siècle, vous voyez. Donc, il a absolument gagné son coup. Et là, c'était... Parce que Céline pensait à Amiot. Il pensait au du 7e siècle, un peu de, bon, c'est, d'après moi, c'est fini ça. C'est maintenant, c'est, tous les grands écrivains, comment dire, parlent avec un confrère. C'est un confrère pour Rabelais, c'est leur confrère. Donc voilà, c'était juste
oui. Mais en plus, bah, je suis vraiment célinophile, célinolâtre. J'adore Céline, mais cet entretien, en réalité, Céline ne dit que des bêtises sur Rabelais. Les seules choses vraies qu'il dit, ce sont des choses, c'est quand il parle de lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, il projette sur Rabelais son propre... ses propres velléités littéraires. Et c'est pour ça que cet entretien est intéressant. À partir du moment où il parle de Rabelais, dès lors qu'il parle de choses historiques, il dit à peu près que des bêtises. Et notamment sur Amiot, parce que j'ai travaillé aussi sur Amiot, et Amiot est un très grand écrivain. Et Amiot a une très grande langue. Céline n'a jamais lu une ligne d'Amiot. Donc il dit, c'est en gros Amiot qui a triomphé et Rabelais qui a perdu. En réalité, il ne sait pas ce que c'est qu'Amiot. Amiot, ce n'est pas du tout une langue véritablement préclassique. C'est une langue qui est hirsute. C'est un traducteur de Plutarque. Et donc, dans les Moralia de Plutarque, il y a tout un tas de choses qui sont difficiles à rendre en langue faible. Donc voilà. C'est simplement que, oui, il y a beaucoup de gens qui se réclament de Rabelais. Il y en a moins en France au XXe siècle. Donc je pense que c'est un... Et ça, c'est une particularité française. C'est-à-dire que je pense que c'est le poids de notre mythe de la langue classique qui a tenté de faire table rase et qui a imposé un autre idéal linguistique qui a sa grandeur. Hein. Racine a une infinie grandeur. Mais c'est un idéal de langue qui entend procéder par exclusion. Donc, exclusion du haut et du bas, exclusion de toutes les étrangetés. La doctrine de Malherbe, il faut bien voir ce que c'est quelqu'un qui prend le poète Philippe Desportes et qui raye, et qui signale, et qui dit « cet adjectif est obsolète ». Ça, on ne peut plus l'écrire comme ça. Donc, la langue classique, elle s'est forgée par l'exclusion. L'exclusion de tout ce qui était susceptible de ne pas convenir à la cour. Ça veut dire qu'elle impose un usage qui semble être aristocratique à l'époque, et il l'est de fait, puisqu'à la cour, il n'y a que des aristocrates, mais qui est un idéal sociologique. Le but, c'est d'arriver à comme dit Vaugelas, à ce qu'on obtienne le bon usage, c'est-à-dire le meilleur usage, celui de la meilleure partie de la cour. Bon, eh bien Rabelais, c'est tout l'inverse. C'est un idéal qui est infiniment inclusif. Ça veut dire que pour rassembler le roi et le moins que rien, pour rassembler les prélats et Villon, il faut une langue qui agrège absolument tout. Et ça a aussi des explications qui sont là encore sociologiques ou historiques. C'est que à partir de Richelieu et avec Louis XIV, la cour va être assignée à résidence. Rabelais fréquente la cour. On a dans le début du Quart Livre, on sait que Rabelais était lu à la cour. Donc ça ne veut pas dire que Rabelais est loin de la cour. Mais la cour au XVIe siècle, ça n'a pas du tout le même sens que la cour au XVIIe siècle. La cour est itinérante, elle est polyglotte, et les savants sont à la cour. Au XVIIe siècle, les savants sont hors de la cour, pour toutes sortes de raisons. Donc, finalement, quand Céline dit « Rabelais a raté son coup », il a tort, résolument, parce qu'il pense que Rabelais n'a pas fait ce que moi je vais réussir à faire, c'est-à-dire l'oralité, etc., qui est une version très limitée de Rabelais. C'est-à-dire que l'oralité est très très forte chez Rabelais, on entend, mais la langue de Rabelais est une langue infiniment artificielle. C'est pour ça que j'ai lu aussi l'écolier Limousin. Il faut se méfier de la conclusion de l'épisode de l'écolier Limousin quand on entend « il faut privilégier le langage naturel ». Bon, moi, je pense qu'il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. Il n'y a pas moins naturel que la langue de Rabelais. La langue de Rabelais est d'un artifice absolument total. Ordre des mots, lexique rare, lexique choc. Il faut se mettre dans la tête du bourgeois lyonnais qui achète un livre de Rabelais et qui tombe dans chaque livre sur au moins 100 mots qu'il n'a jamais vu. Il faut voir ce que c'est que ce choc de la langue. C'est littéralement et partiellement, au moins partiellement, incompréhensible. Mais aujourd'hui, qui pourrait avoir le front de donner un livre qui ne se comprend pas immédiatement, alors que l'exigence, c'est celle d'une transparence immédiate. On vous dit, les éditeurs vous disent, il faut que la première page dise tout du livre. Bon. Voilà, c'est... Et Céline, c'est infiniment artificiel, c'est-à-dire que c'est pas du, c'est une fausse, évidemment.
Non. On vous a dit tout à l'heure qu'il faut passer au micro à chaque intervention parce que tout est enregistré. Oui, oui.
Non, mais oui, tout à fait. La langue de Céline est une langue qui est, comme la langue de Philippe, est une langue qui se sert du tour, des tours, des tournures orales, mais qui refonde un langage. C'est peut-être la différence justement avec Alphonse Boudard, par exemple, qui va être un écrivain, disons, plus... Ouais.
Et j'ai aussi une réflexion pour Philippe, parce que moi, depuis des années, depuis 20 ans, j'essaie de fonder une réflexion partant du fait que Rabelais est le premier romancier. Parce que depuis, je ne sais pas, la Vulgate veut que ce soit Cervantes. Mais moi, je dis non, les germes sont déjà là. Voilà, c'est moi. Mon idée, c'est que les germes sont déjà là et après, il faut les identifier. Il faut dire, OK, pas parler dans le vide. Donc, je suis là-dedans et je ne peux pas séparer de la manière dont Philippe vient de le faire, la langue de la forme. C'est-à-dire qu'il faut avoir une langue pour arriver à une forme. Justement, ma question, c'était que ça, c'est un tout. C'est-à-dire que c'est l'artiste qui fait la forme et la langue, mais c'est une chose, c'est la même chose. Donc, on ne peut pas dire qu'il faut avoir une langue telle ou telle pour espérer à une œuvre d'art. Non, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Ça vient ensemble. Et c'est pour ça que j'insiste, de ma part, j'insiste sur l'art de Rabelais et pas sur la langue de Rabelais. Je crois que ça englobe, que c'est le paramètre peut-être le plus essentiel, mais même quand je dis paramètre, je trahis même ma propre pensée. Il n'y a pas de paramètre. C'est un tout.
Moi, je pense qu'il y a une obsession de la substance chez Rabelais, c'est-à-dire que la langue est une substance. Et il y a l'érudition d'un côté, mais Romain est plus précis que moi là-dessus, mais l'obsession de la substance, c'est une sorte d'amour dévorant pour le langage dans toutes ses ramifications et ses hybridations. Et je pense que quand le flux et la force de la langue, sa substance quasiment gastronomique, la pâte est faite, la forme advient. Je ne pense pas du tout qu'il y ait un projet comme on l'a vu pendant le nouveau roman ou des périodes structurales où il y a une préforme, une idée de structure à l'avance. Ben, je ne sais pas ce que t'en penses, Romain, toi. Je pense qu'il y a une obsession de la langue qui englobe tous les savoirs. Et dans le projet encyclopédique de Rabelais, je ne pense pas que ce soit une taxinomie théorique qui permette de tout recueillir. C'est bien plutôt le magma de la langue comme une super glu qui va absorber tous les savoirs et les réunir. Enfin, je ne sais pas comment tu verrais ça, toi.
Oui, je suis d'accord. De fait, le langage, c'est notre seule manière de capter le monde dans un livre. Donc la vision du monde, c'est ça qui fait art. Donc la vision du monde, c'est le langage même. Sachant qu'au XVIe siècle, il y a des enjeux politiques en plus qui sont assez différents, puisque nous, on n'a plus à défendre et illustrer notre langue. Au XVIe siècle, il y a quelque chose qui se fait, c'est que l'enjeu, c'est de créer une littérature en vernaculaire qui soit à la hauteur de l'avance italienne et surtout des grandes langues anciennes. Et donc c'est ça aussi Rabelais, le miracle Rabelais, c'est pourquoi Rabelais ne s'est pas contenté d'être un Budé ou un Erasme qui n'ont jamais, alors pour Budé c'est pas tout à fait vrai, qui n'ont pas écrit la majorité de leur œuvre en langue vernaculaire. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'en 1532, alors qu'il aurait pu être un éditeur de textes qu'il était, un philologue ce qu'il était, une sorte de texte de médecine, de texte ancien, de texte contemporain, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il veut écrire dans sa langue? C'est ça le miracle. Qu'est-ce qui fait que Pantagruel, qui est littéralement un ovni, donc peut-être un roman, si, en tout cas pour nous, depuis l'ici et maintenant, c'est un roman, parce qu'il a toutes les caractéristiques d'une certaine façon, le personnage, le caractère quotidien, l'expérience simple, le non-héroïsme, ou ce personnage qui est l'un des plus grands personnages de toute la langue française. Panurge, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup le roi s'intéresse au moins que rien? C'est ça. Qu'est-ce qui fait que Pantagruel tend la main à Panurge et qu'est-ce qui fait qu'ils vont s'aimer toute leur vie? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une rencontre? Jusqu'à maintenant, on est avec des rois et des princes. Bon, qu'est-ce qui fait que là, on a le moins que rien qui devient une figure principale? Donc je pense que le XVIe siècle a aussi... Il y a une urgence d'écrire en vernaculaire. Et donc c'est ça, défendre et illustrer, il ne faut pas commettre le contresens sur illustrer. Illustrer, ce n'est pas quelque chose qui existe déjà et on va l'illustrer en image. Illustrer, c'est donner du lustre. Ça veut dire, c'est ça la Pléiade, et déjà Rabelais, c'est déjà ça. C'est l'idée qu'il faut que cette langue soit une grande langue. Hein, et ce n'est pas un hasard si dans Pantagruel, vous lirez ma préface, j'ai écrit là-dessus, ça je crois que c'est assez nouveau, si la langue du roi, dans le chapitre 30, est déployée pour couvrir toute l'armée. C'est le début, puis après, il y a ce fameux passage où le narrateur va dans la gorge. Mais ce qui sauve de l'averse, c'est la grande langue royale. Donc la grande langue, qu'elle soit, c'est pas seulement une métaphore. Cette langue, il faut la défendre et lui donner du lustre parce que pour l'instant, en français, il n'y a pas d'équivalent des grands chefs-d'œuvre gréco-latins ou même de Dante ou de l'Italie. Et peut-être qu'il nous manque cette urgence, alors qu'on a d'autres types d'urgences, c'est-à-dire, évidemment, le français va très bien, d'une certaine façon, mais est-ce qu'on ne devrait pas lui donner du lustre? C'est ça aussi, ça c'est un vrai projet politique. Et le roman peut aussi se charger de ce projet politique-là.
Sans compter, en parlant du projet politique, que dans une société qui est entièrement divisée en classes sociales, en groupes hostiles, et qui est au bord de la guerre civile, rassembler dans une œuvre les parler des gens pauvres et ceux des gens riches, des cultivés et des moins cultivés, c'est un geste de concorde politique. Et c'est ça aussi aujourd'hui qui est nécessaire et qu'on ne trouve pas. Et très étrangement, voilà, il y a une exclusion sociale qui passe par l'exclusion poétique. Quand un langage est exclu du milieu de l'édition, qu'il soit trop haut ou trop bas, c'est une exclusion politique. Donc quel type de société littéraire nous est convoqué? Une société de gens moyens, dans un langage moyen, gagnant un salaire moyen? C'est quasiment ça qui est en jeu. Non, mais c'est très étrange. Et donc, quand on travaille comme Rabelais ou comme Gadda, on fait... Même si on n'est pas typé politiquement, on fait un geste politique de concorde.
Écoutez, il y a Gadda, il y a Rabelais, il y a tout ça, il y a aussi Thélème. Donc l'année prochaine, non, au mois d'octobre, on va continuer, parce que là, vous mettez l'autre sur la bouche. Il y a beaucoup de choses à discuter.
Une piste sur Thélème, parce qu'il y a beaucoup de choses sur Thélème. Il faut aussi voir que Thélème c'est non seulement un modèle de monastère étrange ou d'abbaye, mais c'est aussi très clairement, ça devait être lu comme ça au XVIe siècle, c'est un modèle de cour. Thélème, c'est une cour. Il est très clair. Gargantua est un livre extrêmement courtisan. Donc aujourd'hui, ça fait toujours rire lorsqu'on essaie de voir en Rabelais un révolutionnaire ou un... Bon, c'est une... Rabelais, il est protégé par le deuxième personnage le plus important du royaume, Jean du Bellay. Il va à Rome. Donc voilà, Gargantua est un livre courtisan pour la monarchie française. Donc déjà, l'idée d'un Rabelais démocrate, c'est la même chose. On en a peut-être besoin, mais ça n'est pas dans le... Mais voilà, l'idée que Thélème, c'est aussi... Ça, c'est vrai que c'est aussi une cour, une forme de cour. Peut-être une cour différente, meilleure, peut-être. Peut-être plus souhaitable que la cour qu'il voyait. Mais en tout cas, il avait une expérience de la cour. Donc ça, réunir un monastère et une cour dans le même lieu... Ça encore, c'est une étrangeté. Est-ce que c'est une concorde ou est-ce que dans cette concorde, certainement, il y a aussi de la discorde, c'est-à-dire une provocation. Voilà, ça c'est très romanesque, d'une certaine manière. Voilà.
Donc, Sylvestre, attends, je te passe le... C'est allumé. Si c'est vert, c'est bon.
Bon, déjà, je vous remercie. Je suis absolument enchanté de ce que j'entends depuis que vous avez commencé. Il y a quelque chose qui me frappe, c'est que vous avez en commun beaucoup de choses, même qui vous ont réunis, puisque je suis un des refondateurs avec d'autres, et Béatrice, comme je le sais bien, du prix de la critique, c'est qu'au fond, que ce soit Philippe Bordas, que ce soit toi, cher Lakis, que ce soit Béatrice, vous avez tous les trois, pour des raisons tout à fait pertinentes qu'on peut comprendre et ressentir ce soir, vous avez reçu ce prix de la critique parce que vous avez cet œil, vous avez ce regard aiguisé, vous avez cette exigence et vous avez envie de ne pas vous contenter de ce qui est plat, de ce qui est mou. J'apprécie beaucoup ce que j'entends dit par Romain, par Philippe et par toi et par Béatrice. Ça, c'est un premier point. Mais en fait, ce qui est intéressant chez Rabelais, de mon point de vue aussi, c'est qu'au fond, il se permet tout. Vous l'avez très bien dit. Il se permet de réunir des langages, de forger des mots et de balayer tout un espace mental. Et il y a une prospective rabelaisienne, je dirais, qui n'a pas été suffisamment suivie. Encore que, en tous les cas, dans le genre romanesque, disons, classique ou habituel. Mais il y a eu quand même des choses intéressantes après, avec le côté baroque, un peu plus tard. Et puis, il y avait aussi quand même après, au théâtre, il y a eu des reprises. Il y a d'abord le père de ma voisine, Jacques Audiberti, qui est quand même, on peut dire qu'il est à sa manière un successeur, enfin à sa manière de Rabelais. Non, mais moi je le fais valider. Comme j'ai lu l'œuvre de ton père quand j'étais jeune, je peux me le permettre. Voilà. Et il y en a d'autres. Raymond Queneau à sa manière dans Saint-Glinglin. Bon, c'est quelqu'un, j'ai bien connu Raymond Queneau. Il avait à la fois ce plaisir d'être près du peuple, à l'écoute. Il était banlieusard, il aimait prendre le train, il aimait prendre l'autobus. Avec ses exercices de style, on s'en souvient. La Saint-Glinglin, c'est formidable, c'est un exemple. Mais il était à la fois érudit, mais en même temps, il avait envie de mettre une certaine forme d'oralité dans ses romans. Il y a pas même à sa manière, Jarry a fait quelque chose, ou aussi Boris Vian à sa manière. Alors, ce que je trouve formidable, c'est que chez les écrivains francophones de ce qu'on appelle les départements, les territoires d'outre-mer, tout ça, il y a cette verdeur de la langue, il y a à la fois une capacité d'érudition, mais aussi de langue populaire, que ce soit chez Ernest Pépin, chez Chamoiseau, tu l'as dit, et chez d'autres. Et ça, c'est formidable. Donc, il n'y a pas de rupture. Ce qu'il y a, c'est que ça a été très bien formulé par vous. Dans l'édition, et ça dure depuis 50 ans maintenant, on ne veut pas de mélange des langues, on ne veut pas de mélange des genres. Et le roman, normalement, aurait pu être destiné à accepter au plan éditorial des œuvres qui, justement, sont hors genre, c'est-à-dire se permettent tout. Mais non, ça, les éditeurs, ça fait déjà 50 ans que ça dure. Ils ne veulent pas ça, vous l'avez très bien dit autrement. Mais, et ça, c'est un fait. Mais il y a plein d'auteurs intéressants qui ont été un peu écarté. Pierre-Albert Biraud, qui était un autodidacte, qui est un tailleur de pierre. Moi, j'ai eu la chance de le connaître. Il est mort très âgé et je l'ai connu, j'avais 20 ans. Bon. Mais Pierre-Albert Biraud était un type formidable. Son Grabinoulor, c'est quelque chose. Donc, il y a plein d'œuvres intéressantes en France qui ont été complètement éjectées. Et on se demande si aujourd'hui, les éditeurs en publieraient. Je ne crois pas. Ou alors, il faudrait des maisons nouvelles courageuses qui recevraient quelques suicides, je ne sais pas. Ou faire des sortes de coopératives d'édition qui auraient envie d'aller dans ce que vous faites. Et ce que disait Philippe Zoller est très vrai. En France, on a éradiqué complètement. Claude Duneton, que j'ai eu la chance de connaître, il l'a bien dit dans Parler croquant, dans Je suis une truie qui doute. On a éradiqué toutes ces langues françaises qui étaient la richesse de la France. Alors, évidemment, c'est pas étonnant qu'aujourd'hui on soit dans ce que vous avez très bien dit, l'exclusion complète. Moi, je suis complètement d'accord et enchanté d'être avec vous ce soir. On pourrait continuer, je ne veux pas être trop long, mais c'est fabuleux. Et au théâtre, la verdeur de la langue, elle est là quand même, que ce soit au Baldia, chez chez Audiberti, chez Ionesco, avec de manière différente. Je ne mélange pas tout, mais il y a eu quand même une invention, une inventivité qu'on n'a plus retrouvée parce que les éditeurs n'en ont pas voulu. Mais quand même, quand Michaud écrit Voyage en Grande Garabagne, moi j'adore. Parce que Michaud, ce n'était pas n'importe qui non plus. Il a trouvé quelque chose d'intéressant, hein, pour, non pas pasticher, mais pour mettre un coin dans tout ce qui est ces prétentions pseudo-ethnologiques, etc. Il nous a dit, regardez autrement. Et moi, j'aime ça. Voilà. Voilà. Et bravo, bravo, on va continuer.
Je ne veux pas être trop long.
Oui, puis Novarina, Prigent, on pourrait encore... San Antonio même, d'une certaine manière, chez San Antonio, il y a quelque chose de... Mais on a l'impression que pour retrouver un Rabelais, il faudrait croiser Queneau et San Antonio, d'une certaine façon. C'est comme si chacun avait pris... Mais oui, d'une certaine manière, toute la réflexion sur la créolité s'apparente. Alors, je ne sais pas si ce serait... Mais d'une certaine façon, de manière totalement anachronique, on peut dire que le projet rabelaisien est créole. Ouais.
Oui, moi je me pose plein de questions sur Rabelais. Ça fait à peu près 60 ans que je le lis régulièrement, presque tous les ans, et il y a encore des choses que je ne comprends pas. Bon, alors je voudrais d'abord signaler que le livre sur Gada est un chef-d'œuvre. Et je ne dis pas ça uniquement parce que j'y suis cité. Hein ? C'est un chef-d'œuvre et je vous l'aurais dit si vous ne m'aviez pas envoyé ça avec une dédicace d'une flagornerie telle qu'il était impossible de répondre sans avoir l'air vaniteux. Voilà. Bon. Mais sur Rabelais. Ouais, voilà. Sur Rabelais. Alors, parlons de Rabelais. Moi, il y a des choses que je ne comprends pas. Il y a des flopés, des avalanches d'universitaires qui ont travaillé. Il y a des gloses, il y a tout ce qu'on veut. Pourquoi est-ce qu'on continue tout le temps, dans toutes les éditions de Rabelais, à publier Gargantua avant Pantagruel?
Ça y est.
Alors que
ça y est. Voilà. Dans tout Rabelais, pour la première fois dans l'histoire,
bravo,
l'ordre chronologique
parce
est respecté.
Et on a même glissé. La seule raison, parce qu'on sait très bien que Gargantua reprend des thèmes de Pantagruel, qui reprend la structure en quatre grandes parties, qui a des thèmes dans Pantagruel qui sont esquissés et qui sont développés dans Gargantua. C'est totalement absurde.
Eh ben, je vous recommande tout Rabelais, c'est dans le bon ordre. Pour la première fois, depuis toujours.
Mais c'est aberrant.
L'ordre, ce qui est un ordre que Rabelais n'a pas voulu, s'impose immédiatement.
Non, mais ça veut dire que la plupart des éditeurs et des gens qui ont publié Rabelais sont persuadés qu'on ne peut pas raconter l'histoire du père après l'histoire du fils. Et on est 90 ans après Faulkner, hein, après le... La seule justification, c'est que les universitaires sont tellement cons qu'ils ne peuvent pas imaginer qu'on puisse raconter l'histoire du père après l'histoire du fils. Je veux dire, on atteint quand même des sommets.
Mais c'est une forme de conservatisme, d'une certaine façon. Parce que toutes les œuvres... Alors, je tiens à dire justement que l'appellation d'œuvre complète n'apparaît pour Rabelais qu'au XXe siècle. Dès sa mort, on publie des œuvres de maître François Rabelais. Et dès qu'on publie des œuvres, on les publie dans l'ordre de la diégèse, c'est-à-dire que on publie. Non, donc il y a des raisons sur lesquelles je pourrais revenir, qui sont des raisons de tradition. Mais vous verrez même que dans tout Rabelais, on a non seulement publié Pantagruel d'abord, mais on a mis la pronostication entre Pantagruel et Gargantua.
Bon,
parce que la pronostication finalement fait partie de la trame. De la trame romanesque, et c'est un petit chef-d'œuvre qu'on lit très peu le plus souvent parce qu'on édite les cinq livres et non pas tout Rabelais.
Non, mais
donc
c'est
vous pourrez lire dans l'ordre.
C'est essentiel si on veut, par exemple, quand on prend les jeux d'écho qui est entre Gargantua et Pantagruel, marquer quel est le lien qui existe entre Frère Jean et Panurge. Si on met ça dans l'ordre inverse, on ne comprend pas. Hein? C'est-à-dire que c'est quand même aberrant quand on y parle. Bon, alors la vraie question moi, que je me pose, c'est, puisque vous avez justement parlé de la réception, on ne peut pas aborder Rabelais sans affronter et si possible se débarrasser de ce flot de réception sur lequel on pourrait dire beaucoup de choses. Quoi. Le plus important, enfin le plus significatif pour moi, c'est ce qu'écrit Flaubert au moment où il écrit Madame Bovary. Quoi. Il commence une lettre à Louis Collet par « Je lis Rabelais et je fume énormément ». Et ensuite, il dit et de Rabelais, je reviens, ma Bovary, corsetée, quel ennui. Ah bon, c'est incroyable. Bon, enfin, Flaubert, d'un côté, qui était truculent, hein, dans sa correspondance qui n'était pas faite pour être publiée, dans sa correspondance, il est d'une truculence et tous les témoins, les Goncourt, etc. Et quand il écrit, il se corsette. J'aime bien ce mot. Bon, alors, la question moi, que je me pose, c'est pourquoi on continue à répondre et à prolonger la vulgate issue de Bakhtine, selon laquelle Rabelais serait un écrivain qui aurait ramassé un matériau médiéval et l'aurait projeté dans la Renaissance. Bon. Regardons les dates. Je me demande si quelqu'un a jamais regardé les dates. Les premiers grands livres de Rabelais sont publiés 10 ans après la mort de Léonard de Vinci, 10 ans après la mort de Botticelli, 10 ans après la mort de Raphaël. C'est-à-dire Rabelais vient après la Renaissance, et assez longtemps après. Et il était au courant, puisque Vinci est mort à 40 km de Chinon, hein, au Clos Lucé. Bon.
Alors, ça, je peux peut-être dire.
Alors, il y a une Renaissance.
C'est la Renaissance italienne.
Oui, il y a une Renaissance, oui, mais qui a ses équivalents poétiques en France, quand même. Bon. Bon, il y a une Renaissance qui est celle des corps harmonieux, mesurés, etc., du platonisme, de tout ce qu'on veut, de la mesure. Bon. Et Rabelais, il est critique envers ça. C'est-à-dire, Rabelais n'est pas seulement critique envers les restes du langage théologique de la Sorbonne, qui sont très anciens pour lui. Bon, même si c'est des ayatollahs qui veulent le tuer. Bon, ça se passe comme ça. Mais le langage même qu'il parodie, qu'il caricature chez les Sorbonnards, il est ancien. Mais ce qui explose à la fois dans la langue et dans les récits, parce qu'il n'y a pas que la langue, hein, c'est la conception humaniste, c'est l'homme de la Renaissance. Rabelais va beaucoup plus loin, il dynamite l'homme de la Renaissance. Et ça, on ne le dit pas. Mais sans doute. Mais bon, c'est quand même bizarre. Les raccourcis de Bakhtine, qui par ailleurs a beaucoup de mérite, hein, mais les raccourcis de Bakhtine sur la question sont devenus une vulgate. Ah oui, je voulais dire aussi, il y a 30 ans, on aurait forcément parlé de Joyce. Comme ça, il est en train de disparaître.
Bon, oui, je serai bref. Je trouvais formidable vos interventions. Il y a une dimension qui m'apparaît importante et qui n'a pas été soulignée, c'est la transformation de l'espace public. On parlait de la cour, bien sûr, mais il y a aussi une invention nouvelle qui va transformer tout l'espace littéraire, qui est l'invention de l'imprimerie, ce que n'avaient pas bénéficié les Italiens notamment. Et ça va transformer la donne et va permettre, c'était le sujet d'ailleurs de mon intervention dans le dernier numéro, ça va permettre l'invention du roman, mais aussi et l'invention de l'espace littéraire qui va naître à ce moment-là.
Je peux peut-être en dire 3 mots parce qu'effectivement, je pense que vous mettez le doigt sur quelque chose d'absolument capital.
Oui.
Et toutes les dernières découvertes, on a fait des découvertes absolument fondamentales dans les 20 dernières années sur Rabelais. J'en ai pas parlé parce que ça relève du Rabelais érudit, etc. Non seulement l'imprimerie était dans l'air, ça veut dire que Rabelais était un homme du livre à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Mais ça veut dire qu'il a passé encore beaucoup plus de temps qu'on ne le dit dans les ateliers. Il était dans l'atelier, il surveillait, il a édité, il corrigeait, il était relecteur d'épreuves, il était prélecteur d'imprimerie. Et on a découvert, moi j'ai attribué de nouveaux textes latins à Rabelais, vous trouverez ça dans tout Rabelais, on a découvert toute une facette d'un Rabelais qui est littéralement un homme de l'imprimé. Ça veut dire qu'il pense...
Mais c'est capital, ça.
C'est absolument capital, d'autant que toutes ces années lyonnaises, qui sont les années de formation, donc entre 1532 et 1537, il est dans les ateliers. Il publie du latin et du grec chez Sébastien Griff, et il publie du français, ses propres livres, mais aussi d'autres, chez François Just. Et il est, au moment où il est aussi médecin à l'Hôtel Dieu, il est sur la même rue que cette rue Mercière. Si vous connaissez Lyon aujourd'hui, c'est une rue de restaurant, où, comme dans toutes les villes de la Renaissance, les imprimeurs sont réunis pour des raisons policières et hygiéniques dans la même rue. Donc il a quelques pas à faire pour aller de ses ateliers. Et donc littéralement, il écrit ses livres, il écrit pas dans sa tour d'ivoire, il les écrit
sur la marbre.
Il est dans les ateliers. C'est un homme qui connaît l'imprimerie. Il connaît tous les arcanes de l'imprimerie. Donc c'est vraiment ça, c'est absolument capital. Et on a fait des découvertes. On a découvert, par exemple, qu'il s'était fait graver un blason d'éditeur. Vous imaginez ça? Ça, on l'ignorait. Un blason ou un faux blason, c'est-à-dire une gravure sur bois dans laquelle il y a deux croix pattées, un chevron et un oiseau, avec une devise grecque.
Non, parce qu'il faut quitter le lieu parce qu'on ferme. Hein. On n'a pas le temps. Désolé, c'est-à-dire, c'est, faut pas rater notre coup, hein, parce que c'était surtout pour parler de la revue et de l'initiative de lire et relire Rabelais. Mais Rabelais est grand et il écrase tout le monde, c'est normal. Et juste pour notre expérience de l'atelier du roman en 94, ils ont décidé que c'était les 500 ans de sa naissance. Bon, ça c'est une décision, hein. Parce qu'on ne sait pas. Donc, mais ils ont dit, cette année, ça sera là. Donc, les éditeurs, ils étaient au courant, plein des initiatives, des hommages, des pages littéraires, des spéciaux, etc., en 1994. Et donc, nous l'avons fait exprès. Guy Scarpetta a donné un entretien, c'était le numéro 5. Et on a fait, le titre de ce numéro, c'était « Un an après ». Rabelais, un an après. Silence total, évidemment. Parce que c'était... Et l'éditeur, à l'époque, l'éditeur m'a dit « Mais c'est déjà passé. » Voilà. Donc, vous voyez, on est à peu près là. Et on continue. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et soutenez l'atelier du roman, quand même.